Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 33e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi les conversations courageuses nous font tant de bien ? Je n'avais jamais entendu parler de conversations courageuses jusqu'à cette conférence en juin 2010 lors du congrès de ma fédération professionnelle, ICF, la Fédération Internationale de Coaching. Cette conférence, portant sur les conversations courageuses, était animée par David White, poète anglais de mère irlandaise, orateur inspirant et coach passionnant. Il a, dans son premier temps, abordé les conversations courageuses dans le milieu professionnel avant d'en étendre le principe à toutes les situations de la vie. Pour David White, les conversations courageuses, ce sont ces conversations que nous n'avons pas envie d'avoir, mais qui auront lieu de toute façon, avec ou sans nous. En effet, ces confrontations verbales qui nous poussent à faire face à la réalité ne sont pas agréables. Elles nous déstabilisent. Elles nous sont difficiles à mener parce qu'elles sont porteuses d'incertitudes, de vulnérabilité, puisque nous n'en connaissons pas l'issue à l'avance. Lors des conversations courageuses, nous nous permettons de dire ce qui n'a pas encore été dit, ce que nous n'avions pas pensé dire, ce que nous n'avions pas osé dire jusqu'à présent. Nous avançons mot par mot vers l'inconnu, et cela fait peur. Mais alors, si la conversation courageuse a eu lieu, comment savons-nous que c'était une vraie conversation courageuse ? Le signe facilement perceptible qu'une conversation courageuse a eu lieu, c'est la sensation de soulagement qu'elle procure aux deux personnes. La chute tangible de la tension nerveuse, la perception d'un nouveau bien-être, un apaisement contrastant avec le passé relationnel. Apparaît alors une prise de conscience partagée, celle de la perte de temps et de la perte d'énergie de chacun pendant toute la période d'attente de la conversation courageuse. Chacun des interlocuteurs se sent à ce moment particulier libre de partager les jugements portés sur l'autre, base de toute relation en souffrance. Lorsque David White, spécialiste du leadership conversationnel, accompagne des dirigeants, il en parle comme étant des chefs des conversations de l'entreprise. Il positionne au cœur de leur mission leur rôle de leader en compétences humaines qui, à partir des multiples conversations menées avec leurs collaborateurs, créent les conditions qui favorisent les synergies, en amenant les gens à faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient accomplir seuls, comme il le dit si justement. Cela se confirme dans le cadre des entretiens d'évaluation réalisés par les managers dans les entreprises. Voilà un contexte idéal pour avoir de belles conversations courageuses, non ? Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises ou de structures publiques, des entretiens annuels sont perçus comme une contrainte et une perte de temps. Mais pourquoi ? Parce que ces entretiens sont présentés comme une obligation, une procédure administrative, un protocole inutile, alors que s'ils sont bien menés, ils représentent une opportunité de s'offrir le temps de parler calmement des besoins, des attentes, des impératifs de chacun, des objectifs à atteindre et aussi des ressources nécessaires pour les réaliser. Dans certaines entreprises, et je l'ai vécu moi-même, ces entretiens ont lieu tous les semestres, permettant ainsi de corriger, dans un sens ou dans l'autre, les objectifs de l'année en fonction des aléas du business. Je suggère aussi d'instituer des entretiens spécifiques avec les nouveaux embauchés, les apprentis ou les stagiaires, à travers un bel outil de conversation courageuse, le rapport d'étonnement. Un moyen de récolter des informations précieuses de la part des personnes arrivant avec un regard neuf dans l'entreprise ou dans la structure. Le principe est simple. Dans les 100 jours de son engagement, le nouveau collaborateur est invité à préparer un rapport d'étonnement à l'attention de son tuteur, de son supérieur direct ou de la direction du personnel. Régulièrement, ses supérieurs lui rappellent l'importance de la créativité, de la curiosité, de l'art de poser les bonnes questions, y compris les plus surprenantes. Il l'invite à tenir au jour le jour un carnet d'étonnement. Eh oui, les bonnes idées s'envolent tellement vite. Puis de préparer une présentation orale de son rapport d'étonnement, conçu comme une réunion d'écoute et de découverte, en toute bienveillance, sans jugement bien entendu. Grâce au rapport d'étonnement, le nouveau collaborateur se sentira valorisé au travers de sa créativité, de ses questions et de ses suggestions. De plus, l'entreprise affiche clairement l'importance de la créativité de tous, quelle que soit leur position hiérarchique, leur âge, leur expérience. Pour aider le collaborateur dans ses réflexions et ses propositions, un guide peut couvrir les éléments principaux attendus. On y retrouve par exemple « Qu'est-ce qui vous a étonné le plus ici ?»« Quel est le point fort qui vous a le plus surpris ?» et « Le point faible le plus inattendu ?»« Qu'est-ce qui devrait être amélioré, modifié ou abandonné prioritairement selon vous ?» Si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous changeriez? Qu'est-ce qui vous a étonné dans la manière dont nous servons nos clients ou les usagers? Quelle est la force de nos produits et de nos services que vous ne soupçonniez pas avant de travailler ici? Quelle est la faiblesse ou le manquement qui vous inquiète le plus dans nos produits et nos services? Dans les relations interpersonnelles, qu'est-ce qui vous a étonné? Et enfin, quelles sont les améliorations concrètes que vous suggéreriez? Les nouveaux collaborateurs alimentent ainsi l'entreprise d'un flux permanent d'idées nouvelles et fraîches, une forme de reconnaissance interne et de promotion des conversations courageuses. Cette capacité à identifier puis mettre en œuvre des conversations courageuses est un atout considérable pour le chef d'entreprise, le dirigeant, le manager. C'est aussi une force dans les contextes familiaux, amoureux, amicaux, sportifs et associatifs. Quels sont donc les critères à respecter pour réussir une conversation courageuse? La première de toutes nos conversations courageuses, nous rappelle David White, c'est la conversation avec nous-mêmes. En effet, toutes nos démarches de développement personnel, de connaissance de soi, de compréhension de nos réactions et de nos stratégies comportementales, la reconnaissance de nos valeurs et de nos croyances sont au service de l'émergence des conversations courageuses que nous aurons avec les autres. Dans un second temps, il est important de choisir le bon moment et le bon endroit. Sélectionner le lieu idéal pour tenir cette conversation courageuse, mais aussi faire l'état des lieux de la situation émotionnelle. De s'offrir du temps, de ne pas brûler les étapes, en étant vigilant sur l'impatience et sur l'ego. Puis d'entamer la conversation courageuse avec ses propres questions et non pas celles des autres, en phase avec nous-mêmes, fidèles à notre dignité et à nos valeurs, dans la perception fine des transformations qui s'opèrent en nous. Arrêtons-nous un instant sur ce qui pourrait nous empêcher d'avoir des conversations courageuses. Nous évitons souvent des conversations courageuses, même si nous reconnaissons qu'elles sont indispensables. Les leaders sont aussi humains et tout aussi enclins à éviter les malaises que ceux qu'ils dirigent. Le professeur Jennifer Abrams de l'université de Stanford a cerné les raisons les plus souvent évoquées pour éviter les conversations courageuses. Parmi les plus importantes, nous retrouvons le désir de plaire, puisque nous avons tous besoin d'être aimés et respectés. La sécurité personnelle, pour éviter toute douleur physique ou émotionnelle. Le confort personnel, que l'on souhaite garder face aux efforts que nous anticipons. La peur de l'inconnu, nous faisons préférer le statu quo, même douloureux. L'absence d'un sentiment d'urgence, pour nous, en minimisant les conséquences de l'inaction. Le fait de ne pas se sentir à sa place. Car si la culture du lieu ne traite pas les questions ouvertement, pourquoi le faire? L'attente du bon moment, repoussée tant que nous ne savons pas plus sur l'interlocuteur ou sur la situation. Notre perfectionnisme, tant que nous n'avons pas encore trouvé les bons mots. La méfiance envers soi et les autres, nourrie de jugements, de croyances négatives renforcées. Le manque d'autorité, lorsqu'on pense manquer d'influence et que l'on pense « mais qui suis-je pour souligner ce problème ?» Les doutes sur notre propre jugement, quand nous imaginons que c'est l'autre qui décide ce qu'il veut ou qu'elle veut. Doit-on dire à sa hiérarchie ce qui est mieux pour les clients ? La peur de rabaisser quelqu'un qui a déjà le moral bas, persuadé que la personne le prendrait vraiment mal, qu'elle serait dépassée. Une situation trop personnelle. Si par exemple, dans une petite ville, l'enfant de notre interlocuteur joue avec le nôtre. Les conflits de croyances ou de valeurs. Si nous ne sommes pas d'accord avec le programme que l'on nous demande de soutenir ou d'animer et que cela nous met mal à l'aise. La fatigue, lorsque l'énergie nous manque. Enfin, la personnalité ou l'intention de notre interlocuteur, si c'est une bonne personne dans l'ensemble et que nous pensons que ses paroles ont dépassé ses pensées. Je me souviens qu'à la fin de la conférence de David White, chacun a pu prendre en perspective le concept de conversation courageuse en le déclinant pour tout engagement que nous avons dans la vie. Engagement avec nous-mêmes, notre famille, notre travail, avec nos amis, les membres de nos associations, et en nous interpellant sur cette question puissante, et vous, quelles sont les questions que vous ne pouvez pas laisser sans réponse? Et si quelqu'un vous propose une conversation courageuse, comment allez-vous réagir? Comment, lorsque votre colère gonfle l'ego et les blessures du passé à vif, en pleine tempête émotionnelle, arriver à rester calme et prendre de la hauteur? Comment ne pas prendre pour vous ce qui vient des autres, les reproches, colères, critiques, réflexions qui ne vous appartiennent pas? Le conte de la semaine nous parle de cela. Il s'intitule « Le grand samouraï ». Près de Tokyo vivait un grand samouraï, déjà âgé, qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour, arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un seul combat. Comme il connaissait la réputation du vieux samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer. Mais le vieux resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous pu supporter une telle indignité? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre sabre, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, « à qui appartient le cadeau ?» demanda le maître. « À celui qui a essayé de le donner, » répondit l'un des disciples. « Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, » dit le maître. « Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. » L'action de la semaine. Notez les prochaines conversations courageuses que vous allez mener. Avec vous-même, aussi avec d'autres personnes. Avec qui? Sur quel sujet? Avec quel objectif? Quand? Et où? Quant à la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec l'énergie de LMFAO et de Laurent Bennett, grâce à leur titre festif Party Rock Anthem. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin.
Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time.
Yeah,
and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time.
Let's go.
Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.
Feel it, man.
And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you
shake that.
Every day I'm shuffling.
Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad.
One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking down. Now you home with me,
get naked now.
Get up, get down, get your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, get up, get up.
Shuffling.
Put your